Jonathan Curiel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général adjoint en charge des programmes du groupe M6. On va parler avec vous de la société Hystérisée. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de buzz, de clash. Aujourd'hui, c'est quotidien, c'est presque toutes les minutes en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Avant d'en parler, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vouloir écrire sur ce sujet-là? Puisque vous êtes directeur des programmes de télé, est-ce que c'est ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? C'est ce que vous voyez dans votre vie quotidienne?
Alors, plusieurs éléments m'ont amené à écrire ce livre, à m'inspirer de ce thème. Le premier, c'est que on entend beaucoup, beaucoup parler d'hystérisation à la télévision, à la radio, dans la presse. J'avais même un moment eu envie de comptabiliser le nombre d'occurrences du mot hystérisation par jour dans la presse. Débat hystérisé, hystérisation de la société, etc. Pour des raisons techniques, j'y suis pas parvenu, mais. Si vous voulez, on parle beaucoup de ce mot valise d'hystérisation, il n'avait jamais été développé, défriché, analysé, sondé. Voilà, donc c'était le premier élément. Et puis ensuite, c'est un thème que je trouve extrêmement d'actualité dans l'air du temps, dangereux pour notre espace démocratique et pour la vie publique. Et donc deuxième explication. Et puis enfin, troisième explication. Travaillant, comme vous l'avez rappelé, dans le secteur des médias, j'ai eu envie d'utiliser cette porte d'entrée, comme pour mon précédent ouvrage sur l'immédiateté et la vitesse, pour justement traiter de ce thème avec mon prisme média qui me permet d'avoir une petite lucarne ouverte sur cette thématique.
Alors justement, vous êtes référé à la sociologie, à de l'histoire dans votre ouvrage. Ça veut dire que ce sujet-là, même si on en parle aujourd'hui beaucoup compte tenu des outils que nous utilisons, ça a pu exister à d'autres époques. C'est pas né simplement des réseaux sociaux. Il y a quand même eu des périodes un peu compliquées aussi dans l'histoire.
Oui, il y a toujours eu des périodes avec des antagonismes assez forts, avec un débat public binaire. J'en rappelle des exemples dans le livre. Ça a pu être l'affaire Dreyfus, encore de manière beaucoup plus lointaine, les sorcières de Salem. Au XXe siècle, tout ce qui a été guerre froide, McCarthyisme aux États-Unis. Donc, je donne un certain nombre d'exemples d'hystérisation de la société. La différence avec la situation actuelle et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un emballement un peu généralisé, une perte de raison collective, mais qui s'insinue dans la société de toutes parts. L'hystérisation avant était bornée, localisée à des cas précis. Aujourd'hui, elle est partout, tout le temps, et sans que ce soit trop tarte à la crème non plus, je pense que les réseaux sociaux y sont pour beaucoup, parce qu'ils constituent un relais et un fondement important. Pour l'hystérisation, on peut y revenir sur les différentes explications, mais j'estime que les réseaux, effectivement, ont marqué un point de bascule concernant ce sujet.
Alors, si je parle de ma génération, elle avait de temps en temps, effectivement, certains samedis avec Michel Pollack, on pouvait voir des débats qui partaient en vrille, comme on dit, mais c'était assez rare et globalement, sur les plateaux de télé, on voyait peu souvent ce genre de clash. Aujourd'hui, c'est tous les jours, mais ça peut être à la radio, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être à la télé, et on est en permanence dans cet univers-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat, entre guillemets, tranquille.
Non, parce que, alors déjà, vous vous rappelez avec bonheur, droit de réponse de Michel Pollack, qui effectivement, d'une certaine manière, se jouait de la polémique et de l'algarade, le faisait avec en clin d'œil, avec malice. Aujourd'hui, on a instauré le débat comme un espace de bataille, d'affrontement, où l'adversaire devient un ennemi, et où, effectivement, on n'est plus du tout dans la construction. On considère aujourd'hui qu'un débat... pour qu'il soit sexy, comme on dit, il doit opposer les pour et les contre, il doit se passer des choses, il doit y avoir un peu de clash, on doit opposer des gens avec des visions très antagoniques. Donc on a perdu toute notion de débat constructif ou de débat apaisé, serein, calme, pouvant potentiellement mener à un consensus, ou même sans être d'accord, on peut tout à fait être en total désaccord, mais pouvoir échanger sur le fond. Aujourd'hui, on l'a un peu perdu, et on constate d'ailleurs en ce début de campagne présidentielle française également.
Oui, c'est vrai qu'on peut parler aussi sur les plateaux des experts en tout genre qu'on voit à peu près partout, qui savent tout. Alors, vous citez et vous rappelez Platon qui disait « Je sais que je ne sais pas », phrase effectivement célèbre. Aujourd'hui, on est obligé de savoir, c'est-à-dire quand on est à tel ou tel endroit, on va dire un certain nombre de choses, même si on n'en est pas sûr.
Oui, alors aujourd'hui, on est effectivement dans un système, un monde où on doit être péremptoire, on doit se positionner dans le débat, puisque si vous voulez, aujourd'hui, vos opinions, elles sont déjà, il faut avoir une opinion, ce que Platon notamment considérait comme une mauvaise chose. Il préfère le dialogue et la pensée qui avance, qui problématise, qui bouge, plutôt qu'avoir des opinions tranchées et clivées tout de suite. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce monde-là de l'opinion tranchée qu'on a tout de suite. Et effectivement, on est forcé de choisir un camp. Et puis cette opinion, elle est identitaire. Quand vous critiquez mon opinion, vous me critiquez moi. Et donc du coup, ça crée de l'affrontement, ça crée de la conflictualité, beaucoup plus que si on était dans une discussion avec une pensée qui avançait, qui se questionnait et qui était beaucoup plus dans la construction.
Alors, c'est vrai qu'on se pose tous la question de savoir comment on en est arrivé là. On a quelques idées, vous y avez aussi réfléchi. On peut parler bien sûr de cette peut-être des réseaux sociaux, d'un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas seuls responsables. Il y a une, on va dire que ça touche tous les secteurs, tous les types de débats. Et aujourd'hui, quelque chose qui pouvait peut-être toucher le débat politique, mais sur un autre sujet, on l'a vu sur les vaccins, on va dire que sur l'écologie, finalement, tous les sujets vont être amenés à ce type de confrontation.
Alors on trouve, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup, beaucoup de sujets sont devenus radioactifs, on ne peut pas en parler, ou alors dès qu'on en parle, il y a des camps radicalement opposés qui s'affrontent. À la fin, j'offre des voies de solutions et je donne un certain nombre d'explications, mais vous voyez, il y a des débats auxquels on a l'impression qu'on ne peut pas s'entendre. Les éoliennes, il y a des pour, il y a des contre, mais on a du mal à faire parler ces gens ensemble, on a du mal à confronter les points positifs, les points négatifs. Et puis il y a d'autres sujets, même d'un point de vue universitaire, il y a une vraie guerre aujourd'hui intellectuelle entre certains chercheurs sur des thématiques sur lesquelles on sent qu'il y a des crispations très, très, très vite. Est très forte. Donc effectivement, on est aujourd'hui dans un monde qui est plutôt dans le conflit, dans l'affrontement. Je donne trois séries de raisons sur cette hystérisation montante. Je parle d'un certain emballement médiatique et surtout du point de bascule des réseaux sociaux sur lesquels on peut revenir si besoin, mais qui peut s'expliquer de manière assez claire. Ensuite, il y a une série d'explications relatives aux biais cognitifs, qui sont des distorsions de la réalité. Par notre esprit, il y a le biais de confirmation, par exemple, qui fait que vous préférez être conforté dans vos opinions et ne pas vous confronter à des opinions adverses par confort pour vous-même et pour votre esprit. Il y a un biais cognitif qui s'appelle aussi la dissonance cognitive, c'est-à-dire que vous êtes stressé au fait d'être confronté à des idées qui ne sont pas les vôtres ou alors d'avoir des opinions contradictoires. Donc je liste. Je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert, mais je fais l'inventaire d'un certain nombre de biais cognitifs qui font qu'aujourd'hui, on est dans un débat plus engagé, plus houleux, par des réflexes cognitifs assez primaires. Et puis enfin, troisième batterie d'explications, des raisons beaucoup plus profondes, essentiellement sociales et sociétales, qui sont la fracturation de l'espace public, les fractures sociales, le règne de l'émotion dans nos sociétés contemporaines, où on se rend compte que l'émotion est beaucoup plus présente et contribue beaucoup à la façon dont nous sommes gouvernés, et la polarisation enfin de nos sociétés qui s'accentue d'année après année.
Côté des espoirs tout de même, vous racontez dans votre livre comment aux États-Unis, notamment entre les démocrates et les républicains, il y a aujourd'hui une réelle division, mais vous dites qu'une équipe de chercheurs a été capable en prenant un certain nombre d'Américains, de les réunir, sur des sujets clés, peut-être aujourd'hui de dissension, et de leur expliquer avec des experts les différents sujets, et d'arriver à la fin de cette étude, de ce travail avec donc la représentation de la société américaine, finalement, à beaucoup moins de divisions. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité quand même de revenir, non pas forcément complètement en arrière, mais de revenir à des débats
Oui.
plus sereins.
Oui, on est capable de. Ça fait partie des solutions c'est contre-feu d'une certaine manière à l'hystérisation rampante, qui est d'améliorer la délibération publique et d'associer les citoyens de manière un peu plus large à la délibération et surtout de les faire parler entre eux. Et donc il y a eu cette fameuse expérience qui n'a pas été relayé beaucoup en France d'ailleurs, qui s'appelle America in One Room, mené par deux chercheurs aux États-Unis qui travaillent à Stanford, qui s'appellent Diamond et Fishkin. Ils ont rassemblé des citoyens américains pendant un week-end avec toutes les questions clés de l'élection présidentielle de 2020 opposant Trump à Biden, énergie, écologie, sécurité, santé. Ces gens sont entrés dans ces ateliers avec des positions extrêmement polarisées, très distants les uns des autres. Et puis, après avoir consulté des experts, avoir formé des ateliers, avoir discuté entre eux de manière approfondie sur chaque problématique, ils sont arrivés proches sur 22 propositions sur 26. Donc avec une dépolarisation totale par rapport à leur entrée dans la room, ce qu'ils appellent la room de départ. Et donc c'est une preuve accablante, intéressante et encourageante sur le fait que quand on fait parler les gens entre eux, qu'ils approfondissent les sujets, qu'ils se confrontent à une réalité différente de la leur, ben on peut arriver à se rassembler autour d'un certain nombre de thématiques, quitte à ne pas être d'accord, parce qu'à la rigueur, ce n'est pas le sujet. C'est très bien de ne pas être d'accord et l'humanité a progressé parce que des gens n'étaient pas d'accord. Karl Popper, le philosophe autrichien, a montré à travers une théorie de la réfutation que les théories évoluaient les unes après les autres parce qu'on réfutait la précédente. Donc le fait de s'opposer n'est pas mauvais en soi. En revanche, on se rend compte qu'on ne discute pas assez entre nous, qu'on ne va pas assez au fond des sujets et que lorsque c'est le cas, la situation est nettement différente.
Donc, il va y avoir, je dirais, des efforts à faire pour retrouver de la nuance, hein, que ce soit du monde politique, du monde médiatique, ça va être du monde éducatif aussi, ça peut être long, mais derrière, l'enjeu derrière, c'est quand même un enjeu démocratique, c'est retrouver effectivement ce qui fait normalement le lien qu'on a ensemble, vivre dans nos démocraties, et de garder ce lien, ça va être compliqué, mais il y a quand même, voilà, vous donnez quand même de l'espoir à la fin de votre livre.
Oui, il y a cette expérience et puis il y en a d'autres. Il y a le fait aussi d'aller au fond des sujets, de pouvoir les discuter. Là, on entre dans une campagne présidentielle, on attend avec impatience les propositions, les programmes pour pouvoir en débattre, pour pouvoir aller au fond des sujets et ne pas en rester tous les jours au clash, au buzz du jour, à la petite phrase qui occupe la majorité de notre temps. Parce qu'il faut, c'est le philosophe, encore, c'est un nouveau philosophe, mais le philosophe allemand Habermas disait que. Enfin, prenez acte d'une certaine manière de la polarisation de nos sociétés. On va pas revenir en arrière. On est dans un monde extrêmement polarisé. La question maintenant qui se pose, c'est comment approfondir les alternatives politiques, comment fouiller les différents sujets et les expliciter pour que les gens comprennent où ils en sont et qu'ils puissent se positionner dans le débat ou en tout cas problématiser les sujets avant que ceci ne soit tranché. Donc l'enjeu, c'est aussi d'approfondir des différents programmes, des différentes propositions et de pouvoir en débattre. Aujourd'hui, c'est pas le cas ou pas suffisamment.
Il y a un vrai effectivement sujet qui nous concerne tous, les citoyens, les journalistes, les responsables de programme et bien sûr les politiques. Merci beaucoup, Jonathan Curiel, d'avoir fait le point avec nous donc sur cette société hystérisée. Et on espère qu'en tout cas des améliorations dans les années qui viennent.
Merci à vous.